14. Déposition de Madame Willow Rainwater. 13 juillet, 11h40. Interrogé par l'inspecteur Ralph Anderson. Rainwater.
Reconnaissez-le, inspecteur, mon prénom n'est pas très bien choisi.
Inspecteur Anderson. Votre corpulence n'a rien à voir dans tout ça, Madame Rainwater. Nous sommes ici pour... Rainwater.
Si, justement. C'est à cause de ma corpulence que j'étais là. Généralement, le soir, il y a 10 ou 12 taxis qui attendent devant ce club de striptease, sur le coup de 11h, et je suis la seule femme du lot. Pourquoi ? Parce que aucun des clients ne va essayer de me draguer, même complètement bourré. J'aurais pu jouer left tackle au lycée, s'ils laissaient les femmes jouer dans leurs équipes de foot. En fait, la moitié des types ne s'aperçoivent même pas que je suis une fille quand ils montent dans mon taxi. Et la plupart ne le savent toujours pas quand ils en descendent. Et ça me va bien. Voilà. J'ai pensé que vous voudriez peut-être savoir ce que je faisais là.
Inspecteur Anderson. Parfait, merci.
Rainwater. Mais il n'était pas 11h. Il était environ 8h30.
Inspecteur Anderson. Le mardi 10 juillet. Rainwater.
Exact. La semaine, c'est plutôt calme en ville. Depuis que le gisement de pétrole s'est plus ou moins tari. Beaucoup de chauffeurs restent au garage. Ils taillent le bout de gras et ils jouent au poker en racontant des histoires salaces. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je préfère aller attendre devant le Flint Hotel, le Holiday Inn ou le Double Tree. Ou bien, je vais carrément au Gentleman, please. Il y a une station de taxi, pour ceux qui ne sont pas trop abrutis par l'alcool pour croire qu'ils peuvent rentrer chez eux en voiture. Si j'arrive assez tôt, généralement je suis la première. Deuxième ou troisième au pire. Je bouquine sur mon Kindle en attendant une course. Pas facile de lire un bouquin normal dès qu'il fait nuit. Mais le Kindle, c'est un pec. Une sacrée putain d'invention. Si vous me permettez de retrouver le langage de mes ancêtres indiens, juste une minute.
Inspecteur Anderson.
Si vous pouviez me raconter...
Rainwater.
Je vous raconte. Mais j'ai ma façon de raconter. Et c'est comme ça depuis le temps où je portais des couches culottes. Alors laissez-moi parler. Je sais ce que vous voulez. Et vous l'aurez. Ici et au tribunal. Et quand ils expédieront en enfer ce salopard de tueur d'enfants, j'enfilerai ma tenue en peau de daim avec mes plumes et je ferai la danse du scalp jusqu'à ce que je m'écroule. On se comprend ?
Inspecteur Anderson.
Ok. Rainwater. Ce soir-là, vu qu'il était tôt, j'étais le seul taxi. Ce type, je l'ai pas vu entrer. J'ai une théorie à ce sujet. Et je vous parie $5 que j'ai raison. À mon avis, il ne venait pas reluquer les filles à poil. Je parie qu'il est arrivé avant moi. Juste avant, peut-être, pour appeler un taxi.
Inspecteur Anderson.
Vous auriez gagné votre pari, Madame Rainwater. Votre standardiste ?
Rainwater.
C'est Clint Ellenquist qui tenait le standard mardi soir.
Inspecteur Anderson.
Exact. Monsieur Ellenquist a suggéré à son correspondant d'aller attendre dehors. Un taxi allait bientôt arriver, s'il n'était pas déjà là. L'appel a été passé à 20h40.
Rainwater.
Oui, ça colle. Bref. Voilà le type qui sort et qui s'approche de mon taxi.
Inspecteur Anderson.
Pouvez-vous me dire comment il était habillé ?
Rainwater.
Il portait un jean et une jolie chemise à col boutonné. Le jean était délavé, mais propre. Difficile à dire à cause des lampadaires du parking, mais je pense que la chemise était jaune. Oh, et il avait un ceinturon avec une grosse boucle de frimeur, une tête de cheval, un truc de rodéo débile. Jusqu'à ce qu'il se penche par la portière, j'ai cru que c'était un des gars de l'industrie pétrolière qui avait réussi à garder son boulot quand le prix du brut avait dévissé, ou un ouvrier du bâtiment. Puis, j'ai vu que c'était Terry Maitland.
Inspecteur Anderson.
Vous en êtes sûr ?
Rainwater.
Ma main a coupé. Ces lampadaires, ils éclairent comme en plein jour. C'est pour empêcher les agressions, les bagarres et le deal.
Vu que leur clientèle, c'est une bande de gentlemen.
Et puis, j'entraîne une équipe de basket au YMCA. Des équipes mixtes en théorie, mais il y a surtout des garçons. Maitland venait souvent, pas tous les samedis, mais presque, et il s'installait dans les gradins avec les parents pour voir les gamins jouer. Il m'a raconté qu'il recherchait des joueurs de talent pour son équipe de baseball de la Little League. Il disait qu'on pouvait repérer un gamin qui possédait des dons de défenseur rien qu'en le regardant jouer au basket. Et moi, comme une idiote, je l'ai cru. En fait, pendant qu'il était assis là, il devait choisir quel gamin il aimerait se taper. de la même manière que les hommes jugent les femmes dans un bar. Saloperie d'enfoiré de pervers. Dénicheur de talent, mon gros cul, oui.
Inspecteur Anderson. Quand il est monté dans votre taxi, vous lui avez dit que vous l'aviez reconnu ?
Rainwater. Bah oui. La discrétion est peut-être une qualité chez certains, mais pas chez moi. Hé, hey, Terry !
Je lui fais.
Votre femme sait où vous étiez ce soir ? Et il me répond, j'avais une petite affaire à régler. Et moi, avec une jolie fille sur les genoux ? Vous devriez appeler votre standardiste pour l'informer que j'ai trouvé un taxi.
Qu'il me dit ?
Je m'en occupe, je lui dis. Alors je vous ramène à la maison, coach T. Non, madame, qu'il me fait. Conduisez-moi à Dubrow, à la gare. Et je l'ai prévenu. C'est une course à $40. Et là, il me sort. Si j'arrive à temps pour prendre le train pour Dallas, je vous file $20 de pourboire. Alors je lui lance, accrochez-vous à votre caleçon, coach. On est parti.
Inspecteur Anderson. Donc, vous l'avez déposé à la gare de Dubrow. Rainwater.
Exact. Largement à temps pour qu'il prenne le train de nuit pour Dallas-Fort Worth.
Inspecteur Anderson. Avez-vous discuté avec lui pendant le trajet ? Je vous demande ça car vous semblez du genre bavarde. Rainwater.
Ah oui, j'ai la langue qui file comme un tapis de caisse de supermarché un jour de paix. Vous pouvez demander à n'importe qui. J'ai commencé par lui parler du tournoi de la City League. Est-ce qu'ils allaient battre les Bears ? Et il m'a répondu, j'ai bon espoir. Autant interroger une boule magique, non ? Je parie qu'il pensait à ce qu'il venait de faire. Il était pressé de foutre le camp. Ce genre de truc, ça plombe la conversation. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser, inspecteur. Pourquoi diable est-ce qu'il est revenu à Flint City ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas traversé le Texas dardard en direction le Mexique ?
Inspecteur Anderson. Que vous a-t-il dit d'autre ? Rainwater.
Pas grand-chose, à part qu'il allait essayer de dormir un peu. Il a fermé les yeux, mais à mon avis, il faisait semblant. Je pense qu'en vérité, il m'observait, comme s'il voulait tenter quelque chose. J'aurais bien aimé, tiens. Dommage que j'ai pas su ce que je sais maintenant, sur ce qu'il a fait. Je te l'aurais sorti de mon taxi et je lui aurais arraché son service 3 pièces. C'est pas des paroles en l'air.
Inspecteur Anderson. Et quand vous êtes arrivé à la gare ? Rainwater.
Je me suis arrêté devant, au point de déchargement. Et il a lancé 3 billets de $20 sur le siège avant. Je voulais lui dire de passer le bonjour à sa femme, mais il était déjà descendu. Dites, est-ce qu'il est entré au gentleman pour se changer dans les toilettes ? Parce qu'il y avait du sang sur ses vêtements ?
Inspecteur Anderson. Je vais placer devant vous 6 photos de 6 hommes différents, madame Rainwater. Ils se ressemblent tous, alors prenez votre temps pour... Rainwater.
Pas la peine, c'est lui là. C'est Maitland. Allez l'arrêter. Et j'espère qu'il résistera. Ça fera faire des économies aux contribuables.
15. À l'époque où Marcy Maitland allait encore au collège, elle faisait parfois un cauchemar dans lequel elle se voyait arriver en classe totalement nue. Tout le monde se moquait d'elle.
Cette idiote de Marcy Gibson a oublié de s'habiller ce matin. Regardez, on voit tout.
Au lycée, ce rêve angoissant fut remplacé par un cauchemar un peu plus sophistiqué. Elle débarquait en classe, habillée cette fois, pour s'apercevoir qu'elle allait devoir passer l'examen le plus important de sa vie sans avoir révisé. Quand elle quitta Barnum Street pour prendre Barnum Court, l'horreur et le sentiment de désespoir qui accompagnaient ses rêves anciens ressurgirent. Mais cette fois, il n'y aurait pas de soupir de soulagement, pas de « Dieu soit loué » murmuré au réveil. Dans l'allée de sa maison, stationnait une voiture de police qui aurait pu être la sœur jumelle de celle qui avait conduit Terry au poste. Derrière était garée une fourgonnette sans vitre frappée de l'inscription « Police d'État Unité Mobile » en grosses lettres bleues. 2 véhicules de patrouille de l'OHP, l'Oklahoma Highway Patrol, flanquaient l'entrée de l'allée. Leurs gyrophares palpitaient dans l'obscurité naissante. 4 troopers, costauds, coiffés de leurs grands chapeaux qui donnaient l'impression qu'ils mesuraient plus de 2 mètres, se tenaient sur le trottoir, jambes écartées. Comme si leurs grosses couilles les empêchaient de serrer les cuisses, pensa Marcy. Tout cela était déjà horrible. Mais il y avait pire, les voisins. Tous sortis sur leur pelouse pour assister à la scène. Savait-il pourquoi la police avait surgi subitement devant la jolie maison de Steel Ranch des Maitland ? La plupart étaient sans doute déjà au courant, songea-t-elle. Le téléphone portable, quel fléau ! Et ils informeraient les autres. Un des troopers s'avança sur la chaussée, main levée. Marcy s'arrêta et baissa sa vitre.
« Vous êtes Marcia Maitland ? » Oui, et je ne peux pas rentrer dans mon garage à cause de ces véhicules dans mon allée.
Garez-vous là, le long du trottoir, dit-il en montrant l'arrière d'une des voitures de patrouille.
Marcy résista à l'envie de se pencher par la vitre ouverte pour lui hurler au visage. C'est mon allée, mon garage, dégagez!
Au lieu de cela, elle se gara et descendit de voiture. Elle avait envie de faire pipi, une terrible envie. Sans doute depuis que ce flic avait menotté Terry, mais elle venait juste de s'en apercevoir. Un des autres policiers parlait dans le micro fixé sur son épaule. Et au coin de la maison, talkie-walkie à la main, apparut soudain le clou de cette soirée empreinte d'un surréalisme malveillant. Une femme, enceinte jusqu'aux yeux, vêtue d'une robe à fleurs sans manches. Elle traversa la pelouse des Maitlands de cette démarche en canard, ce dandinement caractéristique des femmes arrivées au terme de leur grossesse. Elle ne sourit pas en approchant de Marcy. Un badge plastifié pendait autour de son cou. Sur sa robe, au sommet de son énorme poitrine, aussi déplacée qu'un biscuit pour chien sur une assiette de communion, était épinglé un insigne de la police de Flint City.
« Madame Maitland, je suis l'inspectrice Betsy Riggins. »
Elle tendit la main. Marcy l'ignora. Bien que Howie le lui ait déjà expliqué, elle demanda
« Qu'est-ce que vous voulez ?»
Riggins regarda par-dessus l'épaule de Marcy. Un des policiers venait de les rejoindre. Le chef de la meute apparemment, car il arborait des galons sur la manche de sa chemise. Il brandissait une feuille de papier. « Madame Maitland, je suis le lieutenant Lionel Sablo. Nous avons un mandat de perquisition qui nous autorise à fouiller votre domicile et à emporter des affaires appartenant à votre mari, Terence John Maitland. »
Elle lui arracha la feuille de main.
La mention « mandat de perquisition » figurait en haut, en lettres gothiques. Suivait tout un blabla juridique. Signé d'un nom que Marcy lut tout d'abord de travers.
« Le juge Crater ? N'est-il pas mort depuis longtemps ?»
Battant des paupières pour chasser la sueur, les larmes, de ses yeux, elle corrigea son erreur. Non, ce n'était pas Crater, mais Carter. Le mandat portait la date du jour et avait été signé moins de 6 heures plus tôt. Elle le retourna et fronça les sourcils.
« Il n'y a aucune liste, » dit-elle. « Ça signifie que vous pouvez aussi lui confisquer son caleçon ?»
Betsy Riggins, qui savait qu'il confisquerait, en effet, tous les caleçons qu'il trouverait dans le panier de linge sale, répondit
« C'est laissé à notre discrétion, madame. »« Votre discrétion ? Votre discrétion ? On est dans l'Allemagne nazie ou quoi ? Nous enquêtons sur le crime le plus abominable commis dans cet état depuis 20 ans que je suis dans la police, et nous emporterons tout ce qui nous semble nécessaire. Nous avons eu la courtoisie d'attendre votre retour. Allez au diable avec votre courtoisie ! Si je n'étais pas rentré maintenant, qu'auriez-vous fait ? Vous auriez enfoncé la porte ? »
Riggins semblait infiniment mal à l'aise. Non pas à cause de cette question, songea Marcy, mais à cause du passager qu'elle devait trimballer dans son ventre en cette chaude soirée de juillet. Elle aurait dû être chez elle, avec la clim, assise les jambes en l'air. Marcy s'en fichait. Sa tête l'élançait, sa vessie la torturait, et elle avait des larmes plein les yeux.
« En dernier ressort, » répondit le trooper avec les trucs sur la manche. « Dans le cadre de nos prérogatives, définies par le mandat que je viens de vous montrer. »«
Laissez-nous entrer, Madame Maitland, » dit Riggins. « Plus vite nous commencerons, plus vite nous vous ficherons la paix. »«
Lieutenant !» lança un des autres troopers. « Voilà les vautours qui rappliquent !»
Marcy se retourna. Au coin de la rue venait d'apparaître une camionnette de la télé, coiffée de son antenne satellite pas encore déployée. Suivi d'un SUV avec un sticker KYO sur le capot, en grosses lettres blanches. Juste derrière, presque collé au pare-choc arrière du SUV, venait une autre camionnette, d'une chaîne de télé concurrente.
« Accompagnez-nous à l'intérieur, » dit Riggins, d'un ton presque enjôleur. « Je vous déconseille de rester là sur le trottoir quand ils vont débarquer. »
Marcy céda, en songeant que c'était peut-être la première capitulation d'une longue série. Son intimité, sa dignité, le sentiment de sécurité de ses enfants. Et son mari, serait-elle obligée d'y renoncer également ? Sûrement pas. Cette histoire était totalement insensée. C'était comme s'ils accusaient Terry d'avoir kidnappé le bébé Lindbergh.
« Soit, mais je ne vous dirai rien, alors ce n'est même pas la peine d'essayer. Et je ne suis pas obligé de vous donner mon portable, mon avocat me l'a dit. »« Très bien. »
Riggins la prit par le bras alors que, dans son état, c'était plutôt Marcy qui aurait dû la soutenir,
pour éviter qu'elle trébuche et tombe sur son ventre énorme. Le Chevrolet Tao de Kawai O, Kyo, comme ils se présentaient eux-mêmes, s'arrêta au milieu de la rue, et la jolie journaliste blonde en descendit si rapidement que sa jupe remonta presque jusqu'à sa taille. Les troopers n'en perdirent pas une miette.
« Madame Maitland ! Madame Maitland ! Juste quelques questions !»
Marcy ne se souvenait pas d'avoir pris son sac à main en descendant de voiture, mais il pendait à son épaule, et elle sortit sans peine la clé de la maison, rangée dans la poche latérale. Quand elle voulut l'introduire dans la serrure, elle n'y parvint pas. Sa main tremblait trop. Au lieu de lui prendre la clé, Riggins referma sa main sur celle de Marcy pour contenir les tremblements, et la clé finit par entrer. Une voix jaillit dans son dos.
« Est-il vrai que votre mari a été arrêté pour le meurtre de Frank Peterson, Madame Maitland ?»«
Reculez !» ordonna un des troopers. « Restez sur le trottoir !»«
Madame Maitland !»
Ça y est, ils étaient à l'intérieur. Marcy se sentit soulagée, malgré la présence de l'inspectrice enceinte à côté d'elle. Mais la maison semblait différente, et Marcy savait que rien ne serait plus jamais pareil. Elle pensa à la femme qui, quelques heures plus tôt, était sortie d'ici avec ses filles. Toutes trois riaient, excitées. C'était comme penser à une femme que vous aviez aimée et qui était morte. Ses jambes se dérobèrent et elle dut se laisser tomber sur le banc dans le vestibule, où les filles s'asseyaient pour enfiler leurs bottes en hiver. Et Terry aussi, à l'occasion, pour consulter une dernière fois la composition de son équipe avant de se rendre au stade. Betsy Riggins s'assit à côté d'elle en poussant un grognement de soulagement, et sa hanche droite potelée cogna contre la hanche gauche de Marcy, moins rembourrée. Le flic avec les trucs sur la manche, le dénommé Sablo, accompagné de deux collègues, passa devant les deux femmes sans leur adresser un regard, occupé à enfiler ses gants en plastique bleu épais. Ils avaient déjà mis des chaussons de la même couleur. Marcy supposa que le quatrième policier contrôlait la horde rassemblée au dehors, devant leur maison, dans cette rue habituellement paisible.
« Il faut que j'aille faire pipi, » dit-elle à Riggins. « Moi aussi.
Lieutenant Sablo, approchez. »
Le policier avec les trucs sur la manche revint vers le banc. Les deux autres entrèrent dans la cuisine, où la chose la plus compromettante qu'ils trouveraient serait une moitié de gâteau au chocolat à l'intérieur du frigo. Riggins demanda à Marcy.
« Vous avez des toilettes en bas ?»« Oui, après le cellier. Terry les a jetées lui-même l'an dernier. »« Lieutenant, les dames ont besoin d'aller aux toilettes, alors vous allez commencer par cette pièce, en faisant le plus vite possible. »
Puis, s'adressant à Marcy,
« Votre mari a un bureau ?»« Pas vraiment. Il s'installe au fond de la salle à manger. » »«
Merci.
Voilà votre prochaine étape, lieutenant. »
Elle se retourna vers Marcy.
« Ça vous ennuie si je vous pose une petite question pendant qu'on attend ?»«
Oui. »
Riggins ignora cette réponse.
« Avez-vous remarqué un comportement bizarre de la part de votre mari au cours de ces dernières semaines ?»
Marcy émit un petit rire amer.
« Vous voulez dire, est-ce qu'il s'apprêtait à commettre un meurtre ? Est-ce qu'il se promenait dans la maison en se frottant les mains, la bave aux lèvres, en parlant tout seul ? La grossesse affecte vos neurones, inspectrice ?»«
J'en déduis que c'est non. » »«
Bravo ! Et maintenant, arrêtez de me harceler. »
Riggins croisa ses mains sur son ventre, laissant Marcy avec sa vessie prête à exploser et le souvenir de quelque chose que lui avait dit Gavin Frick pas plus tard que la semaine dernière, après l'entraînement.
« Terry a la tête ailleurs en ce moment. La moitié du temps, il a l'air absent, comme s'il avait de la fièvre ou un truc dans le genre. »« Madame Maitland ?
Quoi ?
Vous pensez à quelque chose, on dirait. » »«
Oui, en effet. » Je pensais que c'était très désagréable d'être assise à côté de vous sur ce banc. J'ai l'impression d'avoir près de moi un four qui respire. »
Les joues de Betsy Riggins, déjà colorées, rougirent un peu plus. Marcy était horrifiée par les paroles qu'elle venait de prononcer, par leur cruauté. En même temps, elle se réjouissait de voir que sa pique avait fait mouche. En tout cas, Riggins cessa de l'interroger. Enfin, après une éternité, Sablo revint en tenant un sac en plastique qui contenait tous les médicaments de l'armoire à pharmacie du bas, des produits vendus sans ordonnance, les autres médicaments étant rangés dans les deux salles de bain de l'étage, et le tube de crème anti-hémorroïde de Terry.
« RAS, » annonça-t-il.
« Vous d'abord, »
dit Riggins à Marcy. Dans d'autres circonstances, celle-ci aurait laissé la priorité à la femme enceinte en se retenant un peu plus longtemps, mais pas aujourd'hui. Elle entra dans les toilettes, ferma la porte et constata que le couvercle du réservoir des WC était de travers. Dieu seul savait ce qu'ils avaient cherché là-dedans. De la drogue, sans doute. Elle urina tête baissée, le visage dans les mains, pour éviter de voir le désordre. Allait-elle ramener Sarah et Grace à la maison ce soir? Allait-elle les escorter sous les lumières aveuglantes des projecteurs des chaînes de télé, qui seraient certainement allumées à ce moment-là? Où pouvait-elle aller, sinon? À l'hôtel? Les vautours, comme les avait appelés le troupeur, ne les retrouveraient-ils pas? Bien sûr que si. Quand elle finit de se soulager, Betsy Riggins lui succéda. Marcy se faufila dans la salle à manger. Elle n'avait aucune envie de partager de nouveau le banc du vestibule avec l'officier cachalot. Les policiers fouillaient, violaient plus exactement, le bureau de Terry. Tous les tiroirs étaient ouverts, leur contenu s'empilait sur le sol. Son ordinateur avait déjà été démonté et les différents éléments couverts d'autocollants jaunes, comme avant une braderie. Marcy pensa, il y a une heure, la chose la plus importante dans ma vie, c'était une victoire des Dragons et une qualification pour la finale. Betsy Riggins revint.
Ah, ça va beaucoup mieux, dit-elle en s'asseyant à la table de la salle à manger. Je suis tranquille pour un quart d'heure.
Marcy ouvrit la bouche, et la phrase qui faillit en sortir était « J'espère que votre bébé va mourir ». À la place, elle dit « Je suis contente que quelqu'un se sente mieux, même un quart d'heure ».